Le sonophone, le mât qui sonne, qui tonne, qui phonne. Le sonophone est un appareil à écouter le monde, comme la mer dans un coquillage. De son colimaçon sortent des docs, des histoires loufoques, des fictions, des morceaux de vie ou juste des bruits, comme des cartes postales sonores. Toutes les semaines, depuis la pointe du Finistère, pendant 40 minutes, nous écouterons ensemble un pêle-mêle de créations sonores. Ouvrez les oreilles, fermez les yeux. Radio Neptune et arteradio.com vous emmène en voyage. Ici, là, tout près, très loin.
J'ai estimé ce soir qu'il était de ma responsabilité de dire aux Français que la France aujourd'hui est la première terre d'accueil.
Calmez-vous, écoutez-moi. Écoutez, j'ai fermé. Vous avez 2 heures pour faire vos bagages, vous mettre en rang dans la cour.
D'accueil des investissements étrangers avant les États-Unis et juste en même temps que la Chine.
Arte Radio.
C'est ça la France.
.com.
Certains affirment que le degré de civilisation d'une société se mesure à ce qu'elle est capable d'investir dans l'inutile, le beau, le futile, la fête, la poésie, les mots. Et si le degré de civilisation d'une société ne pouvait pas se mesurer à son degré d'ouverture à l'autre, le différent, le né ailleurs, celui qui est si difficile à comprendre, celui qui vient chez nous? Et si l'avenir, notre avenir, c'était le métissage? Avec Sonophone, cette semaine, nous partons pour un autre voyage. Le voyage de l'autre, chez soi, vers soi. Bon voyage!
Eux, ils connaissent rien de... Ils n'ont pas vécu à l'Algérie.
Donc c'est là, ça concerne les 3 générations.
Oui, il a plus de grâce, moi, mon Dieu. Ah, t'es pas bête, là.
Il y a Yasmina, Madame Kamesh. J'ai rentré là, les 53. Mon mari, il était à l'armée. Et elle a fait 9 ans de service. Et à la fin de la guerre de l'Indochine, on est rentré ici, en France. J'avais 25 ans. Et depuis ces temps-là, ben, on n'a pas bougé. On est là. La vie, ça a changé pour nous. Et depuis ces temps-là, ben, on se trouve bien. Et on a pris l'habitude. Les enfants, ils sont tous nés ici. Il ben, y en a de maintenant, le dernier, il a 40 ans.
Ma mère parle assez bien le français, quoi, qu'elle se débrouille assez bien. On n'avait pas beaucoup d'étrangers chez les voisins. Elle est obligée un peu de se mettre un peu comme à la page, quoi, de discuter avec les gens. C'est une autodidacte, hein, vu qu'elle s'est bien débrouillée. Quoi. Je m'appelle Kamesh, nom de famille, Abdelkrim, mon prénom.
Ça me manque toujours, le pays, c'est toujours pareil. Je vais tous les ans, je reste 2 mois et puis je rentre. Parce que j'ai vécu toute ma vie ici. Alors pour moi, ma maison, c'est ici. J'avais mes jardins, on avait mes... Enfin, tout ce qu'il faut pour être un peu courir à droite, à gauche. Mais donc là, bon, on n'a rien, on est bien, mais on n'est pas presque pas libre, on va où qu'on veut, parce que comme je ne sais pas lire et écrire, je ne peux pas y aller où que je veux. Je suis malheureux un peu à cause de ça.
Ah, ça y est, juste un peu de l'eau et puis
et le
un
sucre,
peu
de... La beauté, nana, hein? Nana.
Je n'ai pas mis encore.
Il y a quoi là-dedans? Que de l'eau?
Oui, ça y est, j'ai mis. Et le sucre?
Ça va, je me débrouille tout seul pour les courses. Mon mari, il a pris, il n'a pas été à l'école, mais il a appris à lire et écrire à l'armée.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était un grand voyageur. C'était quelqu'un de très intelligent, donc il nous a ramené beaucoup, il a donné beaucoup à maman. On a aussi bien fêté, quand on était enfant, l'Aïd que Noël. On servait le thé à la menthe, mais on buvait le champagne aussi. Je veux dire ça, il a su vraiment nous intégrer et dire, voilà, vous avez un pays là-bas qui est le vôtre, et ici, vous êtes aussi chez vous. Moi, c'est Amaria. Je suis la plus petite de la famille de 5 enfants, donc 4 garçons et moi la dernière. Je suis la sœur de Krim, de Rachid, de Warad, de Razak, et c'est tout.
Mes enfants, ils ont élevé presque toujours avec des Français. Alors même si je parle avec eux à la maison, mais...
Ma mère, après, s'est mise à parler en français avec nous, et ce qui fait que...
Oui, j'essaie, mais sans...
On répondait en français qu'on a du mal à le parler, quoi.
En Algérie, on parle le dialecte algérien. C'est pas du berbère, mais c'est le dialecte de l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie ne fait pas partie des pays arabes, c'est le Maghreb. On n'est pas des Arabes, d'ailleurs, au niveau de la culture, on n'a rien en commun.
C'est mon pays, c'est l'arabe, il parle, mais moi je comprends pas. Je comprends, quoi. Ça dépend à quel coin qu'il parle. Comme on dit, c'est, mettons, des vrais bretons, on ne comprend pas.
Et même mes gosses, à l'heure actuelle, ils ne le parlent pas du tout.
Il faudra d'abord que j'apprenne l'anglais, et puis l'arabe, ce serait bien que je l'apprenne, justement pour parler avec mes grands-parents ou quoi. Alors, je m'appelle Kamesh Jawel, j'ai 17 ans.
Un garçon, c'est le chef de famille, c'est très important. Oui, pour nous, oui.
Bah, je suis au lycée, je suis en première ES. Puis voilà. Sinon, mes parents n'ont pas fait des études ou quoi. C'est mon père qui me pousse pour justement me donner la chance de pouvoir faire les études.
Bah, les bagages, j'en ai pas tellement au niveau culture. Je pourrais pas tellement leur apprendre du fait que j'ai vécu en France, moi. Et peut-être mon fils en connaît peut-être plus que moi ce qui se passe en Algérie, avec les bouquins, du fait qu'il a poussé ses études un peu plus loin que moi.
Quand je suis avec mes copains français, ou quoi, je me sens algérien, et quand je suis avec ma famille algérienne, je me sens français, donc je suis entre les deux.
Non, ça ne fait pas cet effet-là, non. Non, parce que je me suis vraiment intégré, moi, ici en France, et puis s'ils peuvent continuer le lien avec la culture algérienne, ça sera impeccable, c'est sûr.
Mes parents m'ont dit qu'ils préféraient que je me marie avec une Algérienne, plutôt par rapport à la famille, justement, pour ce serait plus facile à s'intégrer et à mieux se comprendre.
C'est pas pour autant, je vous dis, que je vais les obliger. On a perdu les coutumes de l'époque, quoi, de dire tu vas te marier avec une fille de ton pays.
Pour l'instant, je me dis que je me marierai avec qui j'aime. Voilà. Parce qu'on vient souvent chez ma grand-mère. Hein. Tout le monde se parle, on se passe le couscous. C'est vraiment une autre façon d'être. Si ça avait été un autre repas, par exemple, sais pas, des petits pois et du poulet ou quoi, c'est pas la même chose. Là, je retrouve vraiment l'Algérie et tout.
Avec les événements qu'il y a eu les dernières années, on n'a pas osé trop aller là-bas.
Eux, ce qu'ils veulent nous montrer, c'est l'Algérie de leur enfance. C'est-à-dire le soleil, la mer, la convivialité de la famille et tout. Alors que si on va là-bas, si c'est pour rester enfermé et avoir la peur, c'est pas ça qu'eux, ils ont connu. Ils veulent pas nous montrer ça.
Quand vraiment, t'as envie d'y aller quelque part, il faut pas avoir peur.
Moi, ce que j'avais peur, je me disais, si je vais en vacances là-bas et puis que je laisse pas sortir ma femme de peur d'avoir des répressions, tout. J'ai dit ça sera pas des vacances pour eux, quoi. C'est pour ça qu'on a pas. Ça fait bien quand même 10 ans qu'on y est pour retourner quand même.
Et puis l'Algérie maintenant, il a changé un petit peu. C'est pas, il n'est pas resté comme avant, quoi. Par bon, c'était un petit peu ces problèmes. De temps en temps, il y a un petit massacre à droite, à gauche, mais enfin, pas tout le monde, quoi. C'est rare. C'est pas. Ça fait pas trop peur encore.
Il y a eu un moment où de dire qu'on était algérien, c'était pas très bien vu, on va dire. Alors que maintenant, c'est plus du. J'assume totalement et je suis fier de dire que je suis algérien.
On ne peut pas ne pas être fier, alors que moi, mes parents sont d'origine algérienne. Mon père a fait la guerre d'Algérie, s'est battu pour. Il a fait même la guerre d'Indochine et tout.
Par rapport justement à l'éducation que j'ai eue, la culture, c'est vraiment européen, donc non. Je pense qu'il y a, un trop grand fossé pour que je puisse vivre là-bas maintenant.
Si j'aurais pu avoir une situation en Algérie, j'aurais préféré habiter là-bas, quoi.
Ils sont tellement habitués ici, ils sont toujours. Ils ne veulent pas partir là-bas, quoi. C'est leur pays maintenant, c'est ici. Quand je vais là-bas, je me trouve tout seul. Mais ici, je suis en famille. Je veux rester, mais la famille, ça me manque beaucoup. Je ne peux pas rester à cause de mes enfants. Peut-être un jour au cercueil.
Arte Radio.
Vous venez d'écouter Famille algérienne, un document de Tatiana Bocus. Et maintenant, un peu de musique, avec le groupe Mougar, un mélange celtico-berbère.
موسيقى يزهر في الحفلة
Et voici La Muette de Mehdi Aoudig, ou comment la rénovation tue la banlieue.
Ces tours-là qui se trouvent ici ne vont pas tomber parce qu'ils ne dépassent pas plus de 10 étages. Les tours qui atteignent 10 étages, ils les font tous tomber. Tous les autres tours qui restent debout, ils refont tout l'intérieur, que ce soit les lavabos, les portes, le sol, l'ascenseur, le revêtement des boîtes aux lettres, le carrelage à l'intérieur du bâtiment. Ils vont encadrer les bâtiments, ils vont mettre des espèces de grillages avec à l'entrée un interphone. Donc on va dire ils vont un peu barricader et sécuriser à la fois. Ils vont tout résidentialiser. Bon, après là, on attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est bien beau de descendre des tours, mais bon, après, on verra si ça va apporter des choses positives que négatives. Maintenant, il faut voir qui logera dans ces appartements. Ça, c'est la question que tout le monde se pose.
Moi, j'ai habité, en fait, quand je vais vous montrer, c'est ma barre, à moi, qui va être détruite. Je suis resté là-bas 20 ans. Voilà, moi, je suis Ben Arraj, j'ai 39 ans. Je suis arrivé à la Muette en août 81. Et j'en suis parti en 2005. Eh ben, moi, c'est ma chambre là-bas. 20 ans. La barre blanche que vous voyez là-bas, 50 logements dans un immeuble de 10 étages. Et moi, je suis au troisième étage. En fin de compte, ma chambre, elle est cachée un peu par l'arbre. Et c'est une barre qui n'est pas encore complètement vide et qui le sera bientôt. Et cette barre va tomber. Et voilà. Et mes parents sont partis il y a à peine un mois de là-bas. Et c'est vrai qu'on va parler des choses. C'est vrai que si on parle du bâti, ça paraît simple à détruire, mais en vérité, il faut parler avant tout des gens qui habitaient là. C'est-à-dire 30 ans ensemble, c'est beaucoup, c'est énorme. On n'a pas détruit seulement les immeubles, on a presque détruit un lien social, on a détruit des gens. Et ça, je trouve que c'est... Je ne sais pas si le mot convient, mais c'est déplacé. Par contre, tout ce que vous voyez là-bas, la vie que vous voyez là-bas, c'est des gens qui vont partir du jour au lendemain, obligés de partir. Thank you.
rien sera touché.
Je suis animateur multimédia.
Ah, par contre, là,
et je me prénomme Monsieur Messaoudi.
Pas de problème.
Il fait bon vivre dans le quartier de la Muette. Faut pas dire que le quartier c'est dangereux, on ne peut pas rentrer. Attention, c'est la mafia. Non, c'est archi faux. Hein. J'ai grandi, ça s'est bien passé. Il règne une bonne ambiance entre les locataires. Maintenant, bon, ceux qui veulent pas quitter le quartier, c'est parce que les appartements qui existent, qui existaient et qui existent encore aujourd'hui, dans les autres tours qui n'ont pas tombé, bah, ils sont très confortables et très spacieux. C'est pour la seule et unique raison. Et aussi, même de manière générale, c'est très difficile aussi de quitter un quartier après 25 ans de vie. Et d'aller ailleurs, c'est découvrir un nouveau monde, c'est peut-être pas avoir les mêmes voisins, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc c'est la crainte des locataires aujourd'hui.
Voilà, cette barre-là, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a de mal, cette barre? Vous voyez comme ça, vous arrivez là. C'est joli, c'est sympa. Les gens, ils ont l'air sympathiques. Il y a quelques paraboles, il y a une dizaine de paraboles ou une vingtaine de paraboles, mais ça, c'est... Mais on va détruire ça. Ça me fait toujours quelque chose de penser que cette barre ne va plus exister. On n'a connu que ça. Vraiment, on n'a connu que ça. Et j'ai vu des gens se réunir en mairie pour parler des bars, et eux, ils parlent des bars comme si ça n'a aucune signification pour eux. C'est des immeubles, c'est des... Même les gens, ça reste des objets pour eux, malheureusement. Et là, nous allons arriver à la fameuse barre qui n'existe plus. Et même la mairie, ils n'ont rien dans leur archive. Je l'ai eu par un ami, ça. C'était là où on a passé notre enfance, vraiment. Vous voyez la petite dalle, là? On a joué au foot, tous les jours. Comme ces enfants que vous voyez, là.
Moi, j'habite là, dans ce bâtiment.
Deux rues pour l'ange, monsieur.
Moi, 21,
je suis en face, dans le bâtiment 32, là.
C'était pas bien avant, là.
Là, ils vont pas faire des grands bâtiments comme celui-là.
Non.
Là, ils vont pas le détruire, ça. Ça, ils vont pas le détruire.
Si, ils vont la détruire, toi.
Vas-y, toi.
Ils vont la détruire.
Ils vont couper un morceau, parce que si, elle gaz. Là-bas, ils vont faire des bâtiments.
Là-bas, ils vont faire un parking. Attends.
Bon. Moi, j'habite
les
à Argenteuil. C'est ça chie, Argenteuil. Ouais. Ça pue. J'ai même pas vu d'habiter là-bas.
Tu vas voir, il y a que des pavillons.
Il y a rien
là-bas.
C'est des prisonniers.
Des bourgeois.
Monsieur, quand on commence à la Muette, on finit à la Muette. Parce que sinon, tu trahis. Parce qu'à la Muette, personne ne peut tester. Personne ne peut tester.
Merci beaucoup, les enfants.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Yacine. Il m'a dit plus d'un.
Alors, je viens de recevoir le courrier là, dans les boîtes à lettres. Ils disent pas d'amicale de locataire égale réhabilitation bâclée, logement hasardeux, hausse des loyers, des charges. Est-ce qu'ils disent réagissons pour le constitution? Ah oui, pour la constitution de notre... Ah oui, ils l'ont pas fait. De l'amicale des locataires. Moi, je suis M. Fatmi Kamel, 41 ans, marié, avec 4 enfants. Mais j'habite dans le quartier depuis 72. Hein. Juin 72, je me rappelle, j'avais 7 ans. On arrivait dans les débuts des appartements construits. Je me rappelle quand j'étais arrivé, j'ai encore ce souvenir, quand j'étais arrivé, il y avait un parking, on est arrivé en voiture avec la 304. On est arrivé et il y avait la famille Ramdan qui était là, ils étaient petits aussi, ils nous attendaient. Et on s'est installé. Ils disaient, vous êtes nouveau? Oui. Eux, ils venaient d'arriver il y a 3 mois. Nous, ils arrivaient au mois de mars, on arrivait au mois de juin. On était petits, on s'est installé dans la maison, on était tout contents. Vu où on habitait avant, dans un studio à Boulogne-Billancourt, dans le temps, dans les bidonvilles. Et ça faisait bizarre. Il y avait un terrain, il y avait des espaces verts, il y avait des grilles, cages à poules et tout ça. J'ai vu tout. Les différentes réhabs, les démolitions, les constructions. Pourquoi la muette? Parce qu'il n'y a pas de représentant pour bloquer. C'est pour ça que ça nous a joué. Il n'y avait pas eu de représentant amical locataire pour faire le poids, pour bloquer tout ça. Ils ont vu que c'était facile ici. Dans la zone 15, il y a une grosse amicale des locataires qui ne serait pas laissée faire. Pas comme ça. Ils n'auraient pas pu. Ils ont préféré venir ici, c'est une petite île. Ils diront rien, les gens. On va leur monter leur baratine à droite, à gauche. Ils ne vont rien comprendre au message. On va leur dire, vous inquiétez pas, vous aurez de super logements, super standing, vous serez heureux. Il y a eu des concertations. On a demandé l'avis, mais on a déjà décidé. C'est ça qu'on a vu. Différentes réunions, on était invités, mais il y a déjà le plan qui est déjà là. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est déjà fait. Pourquoi vous nous demandez, comme quelqu'un l'a dit, pourquoi vous nous demandez notre avis si vous avez déjà fait le plan? Ils ont déjà passé par des architectes, tout ça, les dessins, les photos. À chaque fois, on avançait. À chaque réunion, on avançait. Voici les modifications du plan, le plan A, le plan B, le plan C. Et voici la zone A, la zone B, la société. Des fois, on ne comprend rien. On ne comprend rien, vos dessins. Dites-nous, c'est prévu ou c'est pas prévu. Et combien de bâtiments vont sauter, quoi. C'est ça qui nous intéresse. Et est-ce qu'on va y habiter? Et est-ce qu'il y aura du logement pour tout le monde? Bon, ils étaient un peu vagues. Hein. Il y en a même un qui a soulevé... Ici, un responsable ici de quartier. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez confirmer par écrit que dans la réunion que les priorités, on va dire, les locataires de la muette sont prioritaires au logement nouveau. Il s'est pas trop prononcé. Il a dit non, je peux pas écrire, mais vous inquiétez pas, vous serez prioritaire. Ça sentait trop qu'on n'allait pas en profiter et que c'est non seulement sur les nouvelles constructions, ça sera comment il appelait ce mot-là, une résidentialisation. Ou est-ce que ça sera, comme il y en a qui ont dit, qui vont ramener une autre population, qu'il y aura des locataires, entre guillemets, assez, on va dire, des cadres venant de Paris et des villes assez bourgeoises, venir s'installer ici, comme ça sera une grande ville. Ça sera, il y en a qui ont dit que ça sera des gens, des blonds aux yeux bleus, on a un peu rigolé, ça veut tout dire, hein, les Basanés, les Africains. Aller ailleurs, dispersez-les.
Donc, Yacine Ayari, j'ai 28 ans, j'habite à Garges, je suis né à Garges. Je suis né le 17 juin 1979. Je suis resté une semaine à la maternité de Gonesse, hein, voilà. Et en fait, un jour, j'ai cherché des reportages sur Garges, sur la réserve internet, la base de données de l'INA, l'Institut National d'Archives. Et j'ai trouvé un reportage daté du 24 juin 1979 sur une révolte, sur une grève des loyers qu'il y avait au foyer Sonacotra de Garges. Et en fait, donc, on avait des images où on voyait que mon immeuble et le foyer, entre les deux, il n'y avait rien. Donc pas de quartier du tiers-pot, pas de collège, rien, etc. En fait, il se trouve que je l'ai regardé avec ma mère. Et ma mère m'a dit, tiens, bah, ce jour-là, la circulation était bouchée, on revenait de la maternité, c'est ce jour-là que t'es venu à Garges. Donc j'ai rejoint la ville de Garges avec mes parents, un jour de révolte sociale qui concernait donc un problème urbain. Voilà.
Enfin, concrètement, c'est pas que des briques, c'est des sentiments, c'est de l'histoire, c'est du vécu, y a de l'affect derrière tout ça. De quel droit ce que nous ressentons, ce que nous bâtissons, l'identité qui est la nôtre, que nous vivons, pourquoi ça, c'est pas respecté comme peut être respecté n'importe quelle autre chose ailleurs? Et je dis du simple arbre à Paris en finissant par la moindre fontaine ou je ne sais quoi. C'est simplement pas acceptable qu'il y ait comme ça une différence de traitement, une citoyenneté à deux, trois vitesses.
et chez nous, dans les banlieues, alors que ça, ça a participé à l'histoire de la France après la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme si c'était une histoire qui n'existait pas. Or, si jamais un peuple, là je parle ni de peuple noir ni de peuple arabe, hein, je parle d'ensemble de gens qui sont des dénominateurs communs parce qu'ils habitent en banlieue, il y a un destin commun. Donc en l'occurrence, admettons le peuple des banlieues. Si jamais un peuple qui est installé ici depuis 50 ans lui retire son histoire, bah, on va lui retirer aussi son identité, c'est incroyable quoi. Donc, cette histoire, apparemment, ne mérite pas d'être contée parce que c'est des peuples qui ne méritent pas de faire partie de ces histoires collectives et c'est des peuples dont on ne veut pas qu'ils intègrent l'histoire collective de la nation.
La muette, pour moi, ça sonne super bien. La muette, je trouve ça magnifique. Hein. Je trouve ça très poétique parce que la muette, personne ne ferme sa gueule.
L'un des problèmes de la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'il faille voilà, faire de la rénovation d'un certain nombre de bâtiments parce qu'ils sont détériorés, pourquoi pas à la rigueur. Il y a aussi un autre prisme qui anime la mairie de Garges, c'est qu'ils sont dans un véritable fantasme vis-à-vis de la population gargeoise. C'est-à-dire qu'un des arguments qu'ils utilisent, mais qu'ils oseront jamais dire clairement, c'est lutter contre le communautarisme. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux le communautarisme? Ça veut dire que c'est une ville qui est à leurs yeux à eux, qui est trop colorée, où il y a la multiplication des commerces ethniques, où c'est une ville où il y a je ne sais pas combien de mosquées, de temples évangélistes, de petits temples. Et ça, c'est quelque chose qui les gêne profondément. Pourquoi c'est quelque chose qui les gêne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la bande des 10 maires adjoints, il y a 10 blancs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires adjoints de cette ville, de la ville de Garges-lès-Gonesse, c'est 10 blancs de plus de 50 ans. D'accord? Qui la plupart d'entre eux n'habitent même plus à Garges. La plupart d'entre eux ont soit acheté à Arnouville, à Montmorency ou ailleurs. Donc pour eux, ils vivent dans un véritable fantasme, parce qu'ils vivent dans la peur. C'est-à-dire qu'on a une municipalité qui vit dans la peur. Et moi, je pense qu'ils veulent se servir de la rénovation urbaine pour justement, pour vaincre, entre parenthèses, leur peur, en, un, changeant la population, et deux, en pouvant instaurer un esprit village, comme ils le disent. C'est pas anodin que Nelly Olin et Maurice Lefebvre récemment, ils ont voulu transformer le nom de la ville de Garges-lès-Gonesse en Garges en France. C'est Bruno Maigret qui a voulu transformer Vitrolles en Vitrolles aux Provence il y a quelques années. C'est typique, ils veulent appeler ça Garges en France. Ils restaurent l'esprit village, c'est-à-dire qu'ils organisent des festivals de, comment on appelle ça, la fête du terroir, où ils nous ramènent toute la bouffe qu'il y a en France. C'est très bien la fête du terroir, moi j'ai rien contre. Hein. Mais à un moment, il ne faut pas se tromper de population. Aujourd'hui, une population gargeoise, ils préfèrent faire, je sais pas moi, faire une fête où il y a du mafé, où il y a du couscous, où il y a du riz basmati, qu'une fête où il n'y aura que du boudin et de la charcuterie. C'est comme ça, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, c'est une réalité. Est-ce qu'on tient compte de la réalité gargeoise ou pas? Moi personnellement, je suis quelqu'un, je tiens compte de la réalité gargeoise, j'en suis issu. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas en tenir compte, ces gens-là, ils veulent modifier en profondeur cette ville-là. Donc, c'est ça qui est un petit peu emmerdant avec cette histoire de rénovation urbaine. C'est qu'on sait très bien, enfin pour moi en tout cas, alors, les objectifs politiques de cette rénovation, ils sont clairs et nets.
Ce que j'ai compris, hein, ce qu'on a compris tous, hein, ils veulent des petits bâtiments, 3-4 étages, maximum, on va dire 5 étages, pour ne pas mettre un ascenseur. Puis de le grand logement. Donc je suis obligé d'aller ailleurs. Il n'y aura que des petites familles, avec petits enfants, pas beaucoup d'enfants, permettent de mieux surveiller, de mieux gérer. Moi j'attends de voir. Je fais partie de ceux qui attendent de voir. On verra bien.
Moi, je te vois, t'es plus...
Je suis dégoûté.
Avant, t'étais dynamique.
Là, ah, je suis fatigué, j'ai envie de tirer d'ici. Oh. J'ai marre de la muette. Crac, la muette. J'en ai marre de marre. Je leur dis de donner moi une villa avec une piscine.
Non, il y a de quoi en plus.
Et je pars, je vous laisse l'appartement là comme il est, avec les meubles.
Arte.
Il dit, moi, il me donne 100 briques. Il m'en va au bled, je laisse tout.
Radio.
8 millions, roche le bled. Je m'en vais. J'ai des mots, ils vont donner 100 briques. Ils vont donner 100 briques, toi. À toi, ils vont donner 100 briques.
Quoi? Comme?
Ah, une scène, il faut être réaliste. Il ne faut pas déconner. Hein.
Radio Neptune.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Vous pouvez réécouter tous les documents Arte Radio sur le site arteradio.com. C'était le Sonophone de Radio Neptune, avec, dans le rôle des apprentis sonnes, Muriel Cléo et Sandrine Pierrefeu, et la complicité d'ArteRadio.com.